et vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà trop.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast de foot, culture et société. Au moment où sort cet épisode, on est à un peu plus de 2 mois avant le début de la Coupe du Monde féminine. Et pour accompagner la montée en pression progressive jusqu'au Mondial, on a reçu pour la première fois dans Banquette une joueuse professionnelle. Inès Jorena est l'invitée de ce 62e épisode. Elle évolue au PFC Juvisy en tant que milieu de terrain. Elle a été sélectionnée en équipe de France et a joué pendant 4 ans aux États-Unis en universitaire. Avec elle, on a brassé large en parlant de la structure du foot féminin, des différences entre la France et les États-Unis, des caractéristiques de son poste de milieu de terrain et de son diplôme universitaire en journalisme. Bref, je vous laisse découvrir tout ça dans ce nouvel épisode de Banquette. Salut Inès.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va bien.
Cool, cool.
Ouais.
Alors,
on est arrivé ici.
T'es finalement arrivé.
Ouais.
Alors, on va commencer directement. On va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, j'ai envie de dire que t'as un super CV. Il y a plein de points dont on va aborder, qu'on va aborder durant l'épisode. Donc, t'es joueuse professionnelle, t'es passée par les États-Unis, t'as joué en équipe de France. On va parler de tout ça, donc. Mais j'ai envie de dire, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de commencer par le présent. Et le présent, c'est le PFC Juvisy. Un club pour lequel tu joues depuis 2013. Mais j'ai l'impression qu'en dehors du PSG, de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France, le football féminin n'existe pas trop en dehors de ces 3 entités. Et du coup, je voulais te demander en premier lieu, comment on vit du football professionnel en France en tant que joueuse ?
Déjà pour moi, c'est tout nouveau. Ce n'était pas quelque chose que j'avais vraiment prévu. Parce que quand j'étais jeune, y avait peu de professionnels à haut niveau. Donc, c'était le deal. Si tu jouais au foot à haut niveau, tu avais un métier à côté et tu jouais. Bon, là, donc, moi, j'ai fait toutes mes études pour être dans ce projet-là. Et en fait, aujourd'hui, on nous donne l'opportunité de pouvoir jouer à peu près à 100%. Voilà, donc... Ça se passe bien, on a des infrastructures, les infrastructures qu'il faut. Mais après, voilà, enfin, c'est pas comparable au football professionnel des garçons. Et on sent vraiment que c'est le début. Et du coup, nous, on développe le football féminin au quotidien. Donc voilà, on est les premières et on fait en sorte que dans 10 ans, d'autres filles aient encore de meilleures conditions.
Tu te sens vraiment dans ce rôle un peu de pionnière. Enfin, le football féminin en France existe depuis pas mal de temps, mais tu te sens encore... dans un rôle de pionnière vraiment pour les générations futures ?
Ouais, carrément, parce qu'il y a des pionnières qui ont été là avant nous et qui, elles avaient d'autres combats, c'est-à-dire féminiser le football, faire en sorte que rien que le fait que ce soit accepté qu'une fille joue au foot, donc il y a eu ces pionnières-là qui ont commencé à jouer au foot, il y a eu celles qui ont fait en sorte que le football féminin soit regardable et un vrai niveau. Et nous, on est sur une autre étape, on est en train de professionnaliser le football féminin et... Voilà, faire en sorte que ce soit vraiment quelque chose de qualité, de haut niveau.
Et pour qu'on se rende vraiment compte de ce que c'est, est-ce que tu peux nous dire où tu t'entraînes, où tu joues, dans quelles conditions, en fait, comment ça se passe vraiment à l'entraînement, dans quelles infrastructures, justement, vous avez ?
Donc, avant, on était le club de Juvisy. Maintenant, on est avec le Paris FC depuis quelques saisons. Et donc, on bénéficie des infrastructures du Paris FC. Donc, on s'entraîne sur le même centre d'entraînement que les garçons du Paris FC. Et ce centre d'entraînement, il est à Orly. Et c'est que depuis ce début de saison-là, cette année, qu'on est à Orly et qu'on s'entraîne sur un vrai centre d'entraînement. Donc, ça fait quelques hectares. Il y a des vestiaires pour les filles, des vestiaires pour les garçons. C'est encore en construction. Mais on bénéficie d'un vrai centre d'entraînement et c'est dans la ville d'Orly.
Et les matchs, vous les jouez où ?
Les matchs, on les joue à Bondoufle, okay. C'est à côté d'Evry, au stade Robert Bobin. Et on joue quelques matchs là où jouent les garçons, à Charletti.
Ouais. Et comparé à Juvisy, quand c'était Juvisy seul, il y a vraiment une différence en termes d'infrastructure ?
Il y a une différence en termes d'infrastructure, oui, depuis cette année, du coup. Parce qu'il y a ce centre d'entraînement qui était un gros projet pour le Paris FC. Vraiment, le Paris FC, même à l'époque où il n'y avait pas la section féminine, a un peu galéré, je pense que vous le savez, pour avoir ce centre d'entraînement. Aujourd'hui, ils l'ont, on en bénéficie. Et bon, l'année dernière, on était aussi le Paris FC, mais on s'est entraîné par contre sur les structures de Juvisy.
On entend souvent, tu sais, de la part des joueurs de Ligue 1 notamment, on va comparer Ligue 1 et Ligue 1, dire qu'ils sont privilégiés de faire le métier qu'ils font, c'est-à-dire d'être footballeur. Donc ils se sentent privilégiés. Est-ce que toi, en tant que footballeuse, tu te sens aussi privilégié comme par rapport à d'autres femmes ou d'autres personnes qui n'ont pas la chance de exercer leur passion?
Ouais, bien sûr. Déjà, je fais ce que j'aime tous les jours. Je joue au foot. Ça se trouve, si j'avais eu un métier un peu trop prenant, j'aurais dû arrêter le foot et ça, c'est catastrophe. Donc, non, mais enfin, en tout cas, je fais ma passion, c'est ballot à entendre, mais je fais ma passion tous les jours. Et je pense que vraiment, chaque footballeur ou footballeuse, quand elle dit ça, il y a quelque chose derrière. C'est vraiment, il faut se rendre compte, on fait ça tous les jours et on aime faire ça. Quand on est sur le terrain, on ne voit pas le temps passer. Et c'est magnifique.
Est-ce que du coup, tu t'en sors? Est-ce que ça te suffit ou depuis le début, ça te suffit? Ou par moment, tu as dû un peu jongler entre deux jobs?
Non, mais là, cette année, ça me suffit. Après, ça dépend aussi des contrats qu'on a. Moi, j'ai fait mes études pendant longtemps, donc c'est pas un problème, je dirais, financier. Mais quand je faisais mes études, je gagnais pas d'argent à côté et je faisais ce que je voulais, voilà. Donc on en vit, mais c'est pas non plus la folie. Et on a la possibilité aussi d'avoir un métier à côté. On a quand même du temps, donc on a la possibilité d'avoir un métier si on a le besoin et l'envie.
Ouais. Et concrètement, en termes, tu sais, de rythme d'entraînement, c'est par semaine, vous entraînez combien de fois par semaine?
On est disponible tous les jours pour l'entraîneur pour s'entraîner. Après, c'est l'entraîneur qui décide. Okay. On peut avoir un jour off dans la semaine. Mais en gros, on s'entraîne 5 jours dans la semaine, le match, et on a un jour off.
Ouais, bah c'est pas mal. On est vraiment sur du très haut niveau.
Ouais, tu trouves.
C'est 5 fois plus que mes 0 fois par semaine actuellement. En tout cas, moi, je te le dis.
On peut dire que c'est du temps, du temps à peu près plein.
Ouais, c'est ça, exactement. Et avant d'arriver à Juvisy, enfin PFC Juvisy, on va remonter vraiment très loin, enfin beaucoup plus tôt, c'est ta formation. Tu as été formé à Clairefontaine. Du coup, je l'ai appris en préparant cet épisode. Je ne savais pas qu'on formait aussi les joueuses à Clairefontaine. Comment ça s'est passé? Comment tu as intégré justement ce centre de formation?
Ça se passe un peu comme... Non, ça ne se passe pas comme les garçons. Je dis des bêtises. Nous, on arrive à 15 ans à Clairefontaine. En fait, on est repéré par le département, puis par la Ligue. On fait la Coupe nationale. Nous, on l'a faite à Vichy. Donc, on dispute la Coupe nationale. Et là, il y a les observateurs. Et après, ils décident laquelle est recruteur pour Clairefontaine pour être formé. Donc nous, c'est de 15 à 18 ans. Les garçons, c'était différent. À l'époque, c'était 16 ans. Voilà, nous, c'était 15-18 ans.
T'es rentré à quel âge, toi?
À 15 ans, du coup.
Ok, mais tu jouais où avant?
Je jouais chez les garçons à Charenton, en mixte. Et avant d'entrer à Clairefontaine, j'avais fait 6 mois à Saint-Maur.
Ok, t'es du 9-4, parce que Charenton, Saint-Maur...
Exactement.
Ok, ouais. T'as grandi où? Enfin, je sais pas si c'est privé ou pas, mais...
Non, il n'y a pas de souci, on se dévoile.
Ouais, effectivement.
À Charenton.
Ok, ouais. Charenton-le-Pont. Ok, Charenton, très bien. Je sais que c'est une grande ville de basket. Il y a pas mal de grands joueurs de basket qui viennent de là-bas. Je ne savais pas que c'était aussi une ville de foot, en l'occurrence avec toi. Et du coup, à Clairefontaine, comment ça s'est passé? Vous étiez combien sur ta promo à toi?
On était à peu près, je crois qu'on était 14.
Et est-ce que c'était un peu comme, tu sais, le documentaire très célèbre à la Clairefontaine où on avait suivi Ben Arfa, Diaby, Jourdain?
C'était pareil, sauf qu'on n'était pas filmé.
Ouais.
On était un peu meilleurs à l'école aussi.
Est-ce que tu aurais kiffé faire un docu comme ça aussi?
À cet âge-là, je sais pas, mais ouais, je suis sûre que ça aurait été intéressant de montrer les filles, ouais, c'est sûr. Bon, on a des délires un petit peu différents, voilà, mais je pense qu'on est tout aussi intéressantes dans nos personnes.
Bon, est-ce que tu as eu une embrouille comme avec une de tes camarades comme Ben Arfa a eu avec Diaby?
Non,
on,
non.
On veut, ça, on veut savoir.
Non, je vous l'aurais dit, mais non, je suis assez calme dans, dans les relations.
Et du coup, après, t'es parti, enfin, t'as fait tes études universitaires aux États-Unis. Mais comment ça s'est fait, justement, la, la bascule entre Clairefontaine et les États-Unis? Comment ça s'est goupillé, tout ça?
Alors, j'ai fait la dernière année de Clairefontaine. Du coup, on a fait la Coupe du Monde moins de 17 ans. Mm-hmm. Et j'ai, là-bas, j'ai été approchée par un recruteur, un entraîneur d'université américaine. Mmh. Et donc, c'était en novembre et la fin de l'année à Clairefontaine, c'était en juin. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément quoi faire après en termes d'études. Moi, je voulais continuer mes études. Et en fait, là, il m'a donné l'idée du coup de partir aux États-Unis, faire le cursus universitaire. Et à partir de là, je me suis dit, ah ouais, c'est une super idée. Donc, vas-y, go.
Et il te propose plusieurs facs ou il t'en propose qu'une seule?
En fait, pour vous dire la vérité, cette fac-là, j'ai fait des recherches après et il se trouvait que c'était pas, ça ne jouait pas en division 1, c'était pas la meilleure des équipes. Ouais. Du coup, ma sœur et ma mère ont cherché la meilleure université possible. Je leur avais dit, si possible, en Floride, où il fait beau. Voilà,
wow, donc, le soleil, ok. Voilà.
Donc c'est vrai qu'après, j'ai un petit peu choisi et il se trouve qu'ils m'ont accepté, ils m'ont donné une bourse entière. Et...
Mais à la base, il t'avait proposé quoi, ce recruteur
Alors, je crois que c'était dans le Michigan.
Ok. Ouais,
et pareil, il m'avait proposé une bourse entière, mais sauf que le cadre était un petit peu moins sympa.
Il fait froid. Hein,
il fait froid, ouais. Voilà.
Bon, après, il y a les grands lacs, ça, c'est joli.
Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, ouais, on a fait des recherches et ça me correspondait un petit peu plus.
Ok, parce qu'en plus, c'est marrant ce que j'avais noté dans mes questions. La Floride, est-ce que c'est pour le soleil? Mais effectivement, ça a joué, le cadre de vie, le soleil, le beau temps, ça a joué.
Ça a joué, ouais. Après, je voulais aussi une équipe qui était forte. Mmh. Mais ouais, le cadre de vie Floride, moi, ça me faisait un petit peu plus rêver que Michigan. Bon, après, c'est vrai que jouer en plein mois d'août... sous le soleil de la Floride, c'est vrai qu'il y a des petits moments où j'ai regretté, mais non, c'était un bon choix.
Et du coup, comment ça se passe là-bas? Nous, je pense qu'en France, on le voit beaucoup à travers les films, les séries, les sportifs qui sont sportifs à la fac et qui sont aussi étudiants. On voit ça à travers un écran très souvent, mais on n'a pas forcément la chance de connaître des Français ou des Françaises, en l'occurrence, qui ont vécu ce parcours. Du coup, comment ça se passait vraiment? Comment tu conciliais le foot et les études?
Mais déjà, je confirme, c'est là-bas, t'as l'impression que t'es dans un film. Hein.
Ouais.
Donc vraiment, t'as des images de film et donc t'essayes de vivre ta vie réelle dans le film.
Ouais.
Mais en tout cas, y a un accueil incroyable. Vraiment, on te fait vraiment te sentir. Moi, je les trouve, même aujourd'hui encore, je crois que ça fait 8 ans, je m'en remets pas, quoi, comment j'ai été accueillie. Voilà, donc humainement. En termes de sportif, les installations, c'était vraiment incroyable. Mon père, qui connaît un petit peu le milieu professionnel, il me disait, mais ça, des installations comme ça au Real Madrid, c'est même pas sûr qu'ils en aient. Enfin,
ah ouais?
Ouais, ouais, c'était... Il y avait tout, et je vois des trucs arriver maintenant en France, des tapis sous l'eau, des trucs comme ça, qui avaient déjà là-bas. On en bénéficiait. Et c'est, enfin, voilà, donc je me rendais compte... déjà des installations exceptionnelles. Mmh. Et puis le niveau est bon, quoi. Et puis l'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose que je suis contente d'avoir vécu.
Et comment ça se passe, la cohabitation entre les autres sports? T'étais à Florida State, c'est ça?
Ouais.
C'est FSU, non, c'est ça?
Ouais, ouais, FSU.
Ils ont aussi une équipe de football américain. Enfin, j'ai vu ça en regardant Last Chance You il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc,
ils sont pas mal en football américain.
Ils sont pas mal du tout, ouais. Et comment ça se passe, du coup, la cohabitation entre les autres sports, le foot US, le basket, j'imagine aussi, et du coup, le football, il y a de la place pour tout le monde en termes de reconnaissance, etc.
Et bah ouais, il y a de la place pour tout le monde et pour tous les sports, et filles, garçons, vraiment, c'est ça qui est incroyable. Après, le stade de football américain, il faisait 80 000 personnes, donc ça, c'est le stade de France, c'est un stade qui est sur le campus. Bon, nous, ça faisait pas 80 000 personnes, heureusement, parce qu'on l'aurait pas rempli, mais on avait quand même du monde. On avait, pour chaque match à domicile, on avait minimum 1500 personnes dans le stade. Donc non, tu te sens reconnu, t'as envie de jouer, quoi.
Mm-hmm. Et t'as senti vraiment une différence dans la pratique du football entre la France et les États-Unis en arrivant là-bas?
Ouais, après, je trouvais que surtout c'était dans le contenu. Voilà, en France, on essaye un peu plus de construire, jouer, passer par la passe, de se poser des questions un peu plus tactiques. Là-bas, ça se pose beaucoup moins de questions, en fait. Je trouvais que ça jouait vite, il n'y avait pas beaucoup de temps faible, temps fort, ça tirait pas mal devant. Les filles, elles sont pour beaucoup athlétiques là-bas, donc c'est intense. Mais en fait, c'est aussi super technique et c'est un gros niveau de jeu. Moi, je pense que l'équipe qu'on avait à l'époque, dans un championnat européen, elle s'en sortirait bien.
Ah ouais?
Ouais. Non, il y avait vraiment un bon niveau. Et j'ai un peu oublié la question de base. Tu me disais.
C'était les différences entre la France et les États-Unis, ouais, dans la pratique du football.
Ouais, voilà.
Et ça répond un peu à la question aussi. Hein.
Ouais. Et en fait, du coup, au départ, je me basais un peu sur ces différences-là. Mais en fait, la vraie différence, c'est dans l'état d'esprit. Enfin, on le dit, les Américains, c'est des winners, c'est des vainqueurs. Ils lâchent rien, mais c'est... Ouais, c'est vrai, faut le vivre, mais c'est là-dessus, il y a une grosse différence.
Et du coup, toi, tu l'as pris, cette mentalité de winner et tout, c'est en restant 4 ans, t'es resté quand même 4 ans, donc c'est tout un cursus. Tu penses l'avoir acquise, cette mentalité?
Ouais, j'en ai pris un peu. Moi, c'est surtout, dans le goût à l'effort. Je trouve que là-bas, ils ont un goût à l'effort, en fait. Ils ont pas peur de souffrir, ils ont appris à souffrir. Et moi, là-bas, j'ai appris à souffrir. C'est vrai que avant... j'allais pas me faire mal sur un exercice parce que tu te mets dans l'inconfort, t'as les poumons qui brûlent, t'as la tête qui tourne, t'as pas envie. Mais en fait, là-bas, ils t'apprennent à le faire et après, tu prends goût. Moi, il y a une image qui m'avait marqué, c'est je jouais latéral là-bas, donc j'étais défenseur et il y avait une numéro 10. Et des fois, quand on se prenait des contre-attaques, moi, je revenais. Et elle me dépassait, ça a été numéro 10 et elle me dépassait. Et un jour, je me suis dit, mais c'est mort, plus jamais elle me dépasse.
Ah ouais?
Voilà, donc maintenant, j'ai pris l'habitude, quand on se prend une contre-attaque.
D'être toujours la plus rapide.
Voilà, je reviens à fond et après, je souffle.
Ouais, et du coup, tu faisais aussi tes études, tu faisais des études de quoi là-bas?
Là-bas, je voulais déjà être journaliste. Ils faisaient pas ce que je voulais. Du coup, j'ai eu un diplôme en affaires internationales.
Ok. Et ça se passait bien? Est-ce que c'est comme dans les films où tu sais, t'as les profs qui chouchoutent un peu les sportifs en disant bon, ok, je te mets une bonne note parce que t'as bien joué ou parce qu'ils t'aiment bien, etc. Est-ce que c'est comme ça aussi ou c'est vraiment une légende cinématographique?
Ah ben, je l'ai pas vu ce film. Mais non, ouais, enfin, ils étaient super sympas, ils étaient compréhensifs en tout cas. Ils te faisaient rattraper les trucs. C'est vrai qu'on partait souvent et ils étaient vachement à l'écoute. Et ouais, ils aiment bien le sport, il y a une culture sport, un respect pour le sportif. Et ouais, c'est vrai qu'ils étaient hyper...
Il y avait des joueuses dans ton équipe qui ont joué en équipe nationale ou qui sont passées pro dans des grands clubs, t'en connais?
Ouais, j'en connais. Il y en a pas mal qui sont dans la ligue américaine maintenant. Et par contre, il n'y en a qu'une qui est en équipe nationale.
Et c'est qui la joueuse qui joue en équipe nationale?
C'est Casey Short.
Ok, bon, ouais. J'avoue que je
ne sais pas. Elle est derrière la terrain.
Je ne sais pas faire le mec et tout, j'avoue que je ne la connais pas.
Faut la suivre, très bonne chose. D'accord,
joueuse. Très bien, bon, on s'est noté. Je vais la suivre et je conseille aussi aux auditeurs de la suivre. Et... comment justement, on parle des joueuses là, comment elles sont perçues là-bas, pas forcément les joueuses universitaires, mais les professionnelles, même de l'équipe nationale. Toi, tu es resté 4 ans aux États-Unis, donc je pense que tu as pu le voir. Comment elles sont perçues vraiment par les Américains?
C'est vrai que je ne suivais pas trop les pros, donc je n'ai pas trop d'avis sur le championnat pro. Mais en fait, en tant qu'athlète féminine... T'es hyper bien vu, t'es respecté et vraiment, ce respect pour le sportif, il est vrai pour le respect pour la sportive, quoi. C'est la performance et les exploits qui comptent. Et ouais, il y a vraiment ce soutien et il est carrément vrai derrière les footballeuses.
Et malgré ça, ce cadre de vie, cette notion de respect justement, que ce soit athlète féminine ou masculin, ça t'a pas donné envie de faire carrière là-bas, à la fin de tes études?
Bizarrement, non, puisque la France me manquait, ma famille, mes proches. Et donc, j'avais envie de rentrer, en fait, J'étais partie à la base pour faire un an en universitaire. Et j'ai tellement aimé que je suis restée les 3 ans et demi. Mais du coup, je m'étais mis cette limite où je m'étais dit, allez, après 3 ans et demi, tu rentres en France. Mmh. Parce que moi, je suis attachée à la France. Et j'adore la mentalité aux États-Unis. J'adore le système sportif. Mais c'est vrai que... Moi, à la base, je ne suis pas du tout American Dream et les États-Unis, ça me fait pas plus rêver que ça. Mais hormis que ce soit les États-Unis, j'ai passé un super moment là-bas.
C'est, quand tu dis ça, genre même vivre là-bas, la vie là-bas, ça t'a pas plus emballé
Non, après, en plus, j'étais dans une ville, je sais pas, je trouve que ce n'est pas très sexy. C'est pas très... Enfin, j'étais sur un campus, mais il faut prendre la voiture pour aller partout. Il n'y a pas de vie un peu de village, de vie, de proximité, c'est un peu... C'est quand même particulier. Et c'est vrai que c'est pas...
C'est pas la banlieue parisienne, quoi.
ouais, voilà, moi, il y avait ce petit... J'ai cet attachement à Paris, à la France en général, au mode de vie, voilà, où t'accèdes un petit peu partout rapidement, les moyens de transport, voilà, je sais pas.
Mmh. Et quel souvenir tu gardes, si tu veux en garder un seul? Quel souvenir tu gardes justement de ces 4 années américaines ou floridiennes sont réduits?
Un seul.
Sport ou hors sport, hein, un truc vraiment qui t'a marqué quand t'étais là-bas?
Non, j'ai pas un souvenir en particulier. Mmh. Après, on n'a pas gagné le titre quand j'étais là-bas. On s'est qualifié pour. À chaque fois, on s'est qualifié pour les phases finales, c'est-à-dire ils appellent ça le Final Four, c'est les 4 dernières équipes, donc pour les demi-finales nationales. Mmh. Et du coup, on va là-bas, on joue la demi-finale, on a toujours perdu en demi. Ouais, j'ai un moment fort, c'est sur ma dernière demi-finale, donc sur ma 4e saison. On est en demi, il y a le but en or dans les prolongations. Donc on perd 1-0 pendant pratiquement tout le match. On revient à 1-1 dans le temps additionnel du match. Et donc... on va en prolongation et là, je crois que sur l'engagement, elle nous marque un but et du coup, on s'effondre. Donc, c'est l'ascenseur émotionnel, ça, sous une pluie incroyable sur la dernière année. C'était... Ouais, c'est peut-être l'image que je garde, même si elle n'est pas très positive.
Ça va être très scénario de film, en tout cas. Avec la pluie
et tout, ça... Je vous ai dit, c'est un film.
Ça va être très scénario de film, effectivement. Et donc, du coup, après ça, tu rentres en France. Comme tu l'as dit, la France te manquait et tout. La vie là-bas, enfin, la vie ici, en France, te manquait. Comment ça s'est passé, justement, ce retour chez nous? Est-ce que tu rentrais, tu voulais directement rejouer au football ou tu pensais vraiment faire carrière rentrer dans la vie active plus classique?
Je voulais déjà rentrer en école de journalisme, ce que j'ai fait 6 mois plus tard parce que je suis revenue en décembre. Et je voulais aussi jouer en D1. Mais j'avais aucune idée de ce qu'était le niveau de D1. Donc je ne savais pas trop, comme c'était un peu plus le cas à l'époque, mais je doute de moi-même sur le coup. Et du coup, je vais à Issy-les-Moulineaux pour finir la saison. Issy-les-Moulineaux, c'était un promu. Donc, j'ai fait 6 mois là-bas. Je me suis rendu compte que j'avais le niveau de la D1, en effet. Et après, j'ai été appelée par Juvisy. Et... Donc, Juvisy, ensuite.
Ouais, et quand tu dis que tu avais le niveau de la D1, tout de suite, tu t'es senti à l'aise dans ce championnat, même contre les, entre guillemets, les grosses équipes?
Ouais, tout de suite, ouais. Tout de suite, je me suis senti à ma place, ouais.
Mmh. Et en termes de niveau entre le championnat américain universitaire que tu as connu et le championnat de D1, ça se passe comment en fait? Qui est au-dessus? Qui est un petit peu en dessous?
Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'avec mon équipe universitaire de l'époque, on ferait très bonne figure dans le championnat de France. Mmh. Donc, après, on battrait pas Lyon tous les week-ends, ni PSG, mais... Mais je pense que nous, après, on était une très bonne équipe hein, là-bas, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a tellement d'équipes, il y a tellement de filles qui jouent au foot là-bas, qu'il y a, tous les niveaux. Mais le plus haut niveau, le top 25, je dirais, je pense que les équipes du top 25 pourraient jouer en D1 et se maintenir.
Donc, du coup,
facilement.
Comparé à Issy-les-Moulineaux, donc le club dans lequel tu arrives, tu penses que Florida State, enfin ton équipe de Florida State, était. Tu les mets un petit peu au-dessus quand même?
Ouais.
Ouais. Ah ouais, donc ça te place.
Ouais, ouais.
Le niveau professionnel, enfin pas professionnel, mais le niveau d'intensité et de culture foot qu'il y a aux États-Unis comparé à la France.
Ouais, carrément. Après, c'était à l'époque. Je ne vais pas me vieillir. Mais c'était il y a 6 ans. Et le championnat de D1 a vachement évolué depuis. Hein, et ça s'est incroyablement resserré.
Ouais, effectivement. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation qu'on entend souvent sur notre championnat de Ligue 1 en Europe, qui est peut-être le meilleur championnat d'Europe parce que Lyon, parce que le PSG? Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là?
Ouais, je suis d'accord, surtout depuis que les équipes derrière suivent, je dirais. Mmh. Où le niveau, moi je le vois tous les week-ends, hein, c'est compliqué de gagner. Hein. Le niveau, il s'est resserré. Et du coup, donc, on a Lyon et Paris qui sont indéniablement des tops équipes d'Europe. Et en plus, on est en train d'homogénéiser le championnat. Donc moi je pense que, après j'ai pas joué ailleurs, mais j'ai envie de dire que le championnat de France, c'est vraiment un des meilleurs d'Europe. Ouais.
Ouais, est-ce que tu penses que, je sais pas, d'ici quelques années, on pourra avoir un club qui vienne pas seulement titiller ce duo PSG-Lyon, mais peut-être un peu le chambouler, faire un peu comme Montpellier l'a fait en Ligue 1, comme Leicester l'a fait en Première Ligue chez les garçons, c'est-à-dire un peu, genre sur une année, voilà, renverser la hiérarchie et prendre un titre, tout simplement?
Ouais, je pense. Surtout peut-être sur les places qualificatives pour la Ligue des Champions. C'est arrivé il y a 2 saisons, je crois, où c'est Montpellier qui s'est qualifié, qui est passé devant le PSG. Après, Lyon, ils ont pris beaucoup d'avance. Ça fait longtemps que le club et leur président mettent tout en œuvre pour développer. Et du coup, elles ont pris vachement d'avance. Mais là, il y a plein de structures qui sont en train de se faire. Mmh. Et je pense aussi au Paris FC qui là, avec la nouvelle structure d'entraînement. Enfin, c'est des clubs qui ont pris du retard sur Lyon, sur Paris, mais qui vont le rattraper. Et aujourd'hui, il y a des clubs en dessous du Paris FC qui rattrapent un petit peu. Voilà, tout le monde fait un petit peu son chemin de son côté. Et on est aussi aidé par les structures masculines. Donc aujourd'hui, ça va assez vite.
Est-ce que, quelles sont les ambitions justement aujourd'hui du Paris FC pour l'équipe féminine? C'est à court terme, voire à moyen terme, où est-ce que veut se placer le club?
Je pense que c'est se qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà, atteindre au moins la deuxième place.
Et toi, à titre personnel, quels sont tes objectifs? Que ce soit avec le PFC ou même en dehors, je suppose que tu veux gagner un titre. C'est le rêve quand même de tout footballeur de mettre un titre dans son CV, remplir sa carrière de titre. C'est ce que tu veux aussi?
Ouais, c'est sûr. Après, une qualification pour la Ligue des Champions, je pense que c'est beau aussi. Et c'est je pense ce qui est atteignable. Voilà, gagner le championnat, pourquoi pas. Mais bon, c'est plus facile en jouant à Lyon. Mmh. Et oui, bien sûr, un titre. Après, j'en ai connu des titres en jeune, en équipe universitaire. Voilà, mais y a toujours mieux. Il y a toujours mieux et on se bat pour ça.
Bah, j'espère que tu décrocheras ce fameux titre un jour, que ce soit une Coupe de France, une Ligue des Champions, un titre de champion de France, ou même, sait-on jamais, une Coupe du Monde, on l'espère. Et justement, ça me permet d'embrayer sur l'équipe de France en parlant de niveau. Donc, tu l'as dit, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le pensent aussi, que la Ligue 1 féminine est un des meilleurs championnats d'Europe, voire du monde. Mais le problème, c'est qu'on a une équipe nationale qui a un très bon niveau, mais qui n'arrive pas justement à atteindre les mêmes succès que son championnat, en fait. Et comment toi, tu l'expliques justement, cette différence entre le niveau du championnat de France et le niveau de l'équipe de France en compétition internationale? Comment t'expliques un peu cette différence?
C'est vrai que c'est ce qui manque. Il manque des titres, alors qu'à chaque fois, l'équipe de France, on la sent capable. Je me trompe peut-être, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment... c'est encore une fois dans la mentalité, ouais. Mmh. Et vraiment se projeter en tant que gagnant et vraiment croire en soi et avoir envie de battre l'adversaire le jour J, quoi.
Mmh. L'équipe de France, toi, tu y as joué. Tu as déjà été sélectionné en équipe de France. Comment tu l'as vécu, justement, cette la première fois qu'on t'a dit tu vas jouer en équipe de France? Comment tu étais, dans quel état d'esprit? Est-ce que c'était de la fierté? Est-ce que c'était de la, la surprise, t'étais comment?
Voilà, la première fois, j'avais été appelée une première fois, j'étais plus jeune. Je crois que c'était à mes débuts à Juvisy, je devais avoir 23 ans. Donc là, c'était de la surprise, parce que j'avais pas du tout planifié quoi que ce soit. Et après, en fait, le fait de jouer à haut niveau, le fait de s'entraîner et de rentrer dans des objectifs personnels au quotidien, et ben, ouais, t'as envie d'aller au plus haut niveau, et le plus haut niveau, c'est l'équipe de France. Donc quand on te fait comprendre que t'en es capable et que tu vois que c'est possible, et ben, c'est quelque chose que tu vises. Donc la deuxième fois, sur les autres fois, quand je suis appelée avec Corinne Diacre, c'est moins de la surprise, c'est plus de la récompense et le fait de rentrer un peu dans le cercle de joueuses supervisées. Et voilà, c'est le fait d'être le plus performante possible pour y rester. Malheureusement, je suis pas restée, mais pourquoi pas un jour y retourner.
C'est une idée que tu avais envisagée quand tu as commencé à jouer à un niveau, on va dire, professionnel, ou quand tu voyais que vraiment le foot, ça allait devenir ce que tu allais faire de ta vie, en fait. Est-ce que l'idée d'intégrer l'équipe de France a été un truc qui t'a guidé? Je sais que pour beaucoup de footballeurs, notamment qui sont passés ici dans Banquette, ça ne l'a pas été pour tous. Il y en a pour qui ça ne l'a pas été du tout, ce n'était pas un objectif de carrière. D'autres pour qui ça l'était absolument. Comment toi, du coup, tu voyais l'équipe de France?
Mais quand je jouais avec les garçons, quand j'étais jeune, j'y pensais pas, parce que c'était pas réel, ça passait pas trop à la télé, je regardais pas, donc j'avais même pas l'idée forcément. Ensuite, quand on rentre à Clairefontaine, c'est le Pôle France, donc là c'est l'élite et on commence à te parler de l'équipe de France. Et après, je pense que c'est comme les garçons, on est sélectionné en U17, U19, U20, et donc là t'es dans le cercle équipe de France, t'es dans le cursus équipe de France, donc ça vient naturellement en fait, et t'es sélectionné en 17. T'as envie d'être sélectionné en 19 après, t'es sélectionné en 19, t'as envie d'être sélectionné en 20. Et après les U20, bah, c'est l'équipe de France A. Donc tu te dis, bah, quand t'es en U20, tu te dis, moi j'espère que moi je serai une joueuse qui sera en équipe de France A. Je pense que c'est comme ça que ça marche pour tout le monde. Après, si t'es pas sélectionné en équipe de France jeune, ça doit venir différemment.
Différemment, et après il n'y a pas de parcours type, je pense, pour...
Exactement.
Pour entrer en équipe de France. La grosse échéance, c'est la Coupe du Monde chez nous en France, le 7 juin prochain. Est-ce que toi, tu y crois encore justement à l'idée de disputer cette compétition à domicile?
Ça devient compliqué parce que le groupe il se fait, les listes, il va y en avoir de moins en moins. Je pense qu'il va y en avoir encore une seule avant la liste définitive. Donc, étant donné que ça fait un peu plus d'un an que je n'ai pas été sur les listes, ça devient compliqué. Maintenant, moi, mon devoir, c'est d'y croire et d'être prête au cas où on m'appelle. Donc, je ne vais pas ne pas y croire et ne pas être prête le jour où on m'appelle.
Ouais.
Donc, tu te prépares, tu fais les meilleurs matchs que tu peux possible. Et puis, bah, si on t'appelle, tu es prêt. Si on ne t'appelle pas, tu supportes, quoi.
Et si on t'appelle, l'objectif, c'est quoi? C'est ramener la coupe à la maison?
Bien sûr.
Ouais, obligé.
Ouais, c'est à domicile, mais c'est ça aussi justement, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui peut empêcher de gagner, c'est peut-être se mettre trop la pression et penser au résultat. On joue à la maison, donc faut absolument gagner. Je pense pas que c'est faut prendre dans ce sens-là, prendre dans le sens on joue à la maison, il y a le public, ça nous galvanise, et juste profiter des moments et prendre que le positif en fait. Donc le public, c'est faut le prendre en pression positive et pas en pression négative. Si on gagne pas, on est à domicile, qu'est-ce qu'on va dire, machin, faut absolument qu'on gagne. Non.
Et tu penses qu'une Coupe du Monde réussie de l'équipe de France, ça peut aider un peu à booster déjà la visibilité du foot féminin, peut-être même aussi booster, je sais pas, l'aspect financier, tout ce qui est sponsor, tout ça. Tu penses que ça peut un bon parcours? Et si possible, on l'espère, une victoire finale, ça peut changer les choses, tu penses?
Ouais, ça peut que aider parce qu'on en parlera. Je pense au handball féminin, on parle d'elles et on les apprécie parce qu'elles gagnent. Et enfin voilà, les gens ils veulent la gagne, donc il faut leur donner la gagne.
Mais est-ce que c'est pas triste justement de se dire que pour exister, enfin vous existez pardon, mais que pour... pour avoir plus d'écho, plus de visibilité, on est obligé de passer par la gagne et pas juste se contenter de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire juste d'être là, en fait, juste d'exister, pardon.
Non, je pense vraiment que les gens, ils ont envie de résultats, et quand ils n'ont pas les résultats, c'est peut-être triste, mais quand ils n'ont pas les résultats, ils suivent pas et ils apprécient un peu moins, quoi. Enfin, ils nous demandent pas d'être sympa et d'être rigolote, ils veulent juste qu'on gagne des matchs.
Effectivement, bon, je vois ce que tu veux dire. Et là, on va s'intéresser plus à toi en tant que joueuse, ton poste. Est-ce que tu peux définir ton poste ? Est-ce qu'il est défini clairement ou tu vas à droite, à gauche, en haut, en bas ? C'est quoi ton poste vraiment ?
Ok. C'est un peu le mauvais moment pour me demander, parce qu'en ce moment, on a plein de blessés, donc j'ai dû enchaîner 5 matchs en tant qu'arrière-droit, là.
Ouais.
Mais sinon, je joue milieu défensif, mais ça fait... Depuis que je suis revenue en France, je joue milieu défensif. Et c'est vraiment mon poste préféré où je me sens le mieux.
Mmh.
Et en fait, je trouve ma personnalité sur le terrain, elle se reflète le mieux, quoi.
C'est-à-dire ta personnalité sur le terrain ?
C'est-à-dire être un peu dans le combat... récupérer, donner et avoir la possibilité de se projeter quand c'est possible. Et puis être un peu dans le jeu de passe aussi. Voilà.
T'es plus vraiment 6. Là, on rentre un peu dans les termes techniques. Je suis désolé pour les auditeurs ou auditrices qui ne sont pas familiers avec ça, mais on va essayer de faire au plus simple. C'est-à-dire, quand tu joues 6, donc c'est récupérateur, t'es vraiment assez bas en mode tu grattes les ballons et après tu relances très court. Sur ton 8 ou voilà, ou tu es plus un peu box to box, vraiment pour que, c'est-à-dire que tu es en bas et tu montes après.
Moi, le registre que je préfère, c'est récupérer et donner. Mm-hmm. Voilà. Mais après, je peux faire les deux, puisque ça dépend aussi avec qui je joue, et il faut être au maximum complémentaire. Et je pense qu'on est tous un peu formés à faire, à faire les deux. Et c'est vrai que quand j'ai l'énergie, j'aime bien aller aussi dans la surface adverse. Donc, je dirais un peu les deux.
Ok, tu marques des buts un peu ou t'es vraiment, vraiment un 6 un peu classique, c'est-à-dire que tu récupères, tu donnes et c'est très bien.
Non, je marque pas beaucoup. Comme repère, la saison dernière, j'ai mis 3 buts. Donc là, on est dans le top.
Ouais.
Et cette année, on approche de la fin de l'année, de la fin de la saison, et j'ai mis un but.
Bon, donc, au moins, t'en as mis un. C'est toujours
j'ai ça. J'ai sauvé l'honneur, c'est
ouais,
ça.
C'est ça. Exactement. Et tu l'as dit, tu dépannes en ce moment parce qu'il y a pas mal de blessés. Tu joues au poste de latéral droit. En termes de repères, qu'est-ce que ça change ? C'est une discussion, je crois, qu'on n'a jamais eu, on n'a pas trop eu dans Banquette. Et je profite du fait que tu sois là pour qu'on en parle. Quand tu joues à un poste de milieu de terrain, tu es vraiment au centre et tu te retrouves sur le côté. En termes de repères, est-ce que ça change beaucoup ? Ou en tant que joueuse de football, voilà, tu es assez polyvalente et que tu peux faire le job, quoi ?
Ouais, c'est ça, je fais le job. Mais après... Enfin, quand tu es au milieu du terrain, tu es tout le temps concerné par les actions, tu es tout le temps en mouvement, tu es jamais à l'arrêt et tu as toujours un truc à faire. Bon, en tant que latéral aussi, je pense, mais tu es vraiment plus dans l'action en tant que milieu, et moi, c'est ça qui me plaît vraiment, toujours, toujours être en train de courir, toujours avoir une tâche à faire.
Ouais.
Et je me sens plus utile. En milieu de terrain que sur un côté t'as le temps de rêver un peu.
Ah, tu trouves?
Et ouais, je trouve, hein, quand ça joue à l'opposé,
ouais. Ah,
t'as
oui,
un peu
vrai,
le temps de rêver, et ça, c'est pas bon.
Ouais, t'aimes pas, tu veux être dans l'action tout le temps.
Ouais, voilà,
tout le temps. Et là, ton niveau de jeu actuel, comment tu le qualifierais? Est-ce que tu penses être au top de ta forme? Est-ce que c'est peut-être ta meilleure saison? Est-ce que tu te sens dans ta meilleure saison, ta meilleure forme, ou tu sens que t'es un peu moins bien? Ou troisième option, c'est tu sens que tu peux faire mieux. C'est-à-dire que tu es bien, mais tu peux faire encore mieux.
Ouais, je suis bien, mais je sens que je peux faire mieux. Ça dépend. En fait, ça dépend un peu. Il faut que je gagne un peu en régularité. Je peux avoir des matchs où... 2-3 matchs que j'enchaîne où ça se passe super, super bien. Et un match où ça va être un petit peu moins bien. Et voilà, donc j'aimerais bien faire... On dit tout le temps on a le droit de rater un match, mais... Voilà, ne pas rater de match.
Tu penses qu'on n'a pas encore vu le meilleur d'Inès Jorena? Tu penses que d'ici une saison, deux, trois saisons, tu atteindras ton sommet, ton apogée en termes de niveau de jeu?
Ouais, c'est une possibilité, ouais. Ouais, il y a moyen. Après, okay. Ouais, j'y crois, ouais. Mais d'ailleurs, je m'entraîne pour ça, en vrai.
Ah bah, tant que tu y crois, c'est le principal. Et juste pour rebondir, enfin revenir une dernière fois sur ce côté un peu dépannage, en plus, tu joues un poste qui est concerné par ce que je veux dire, c'est que souvent, on a vu des milieux défensifs, récupérateurs, descendre au fil des années, c'est-à-dire finir défenseur central. Est-ce que toi, c'est un truc que tu aimerais faire ou c'est genre vraiment, c'est pas question, c'est milieu ou rien du tout?
Mais j'aime bien défenseur central aussi, je sais pas. En fait, j'aime bien être dans l'axe du terrain. Mais j'ai vraiment fait beaucoup de postes. J'ai commencé en attaque, après j'étais milieu excentré, après je suis passé latéral. J'ai fait aussi arrière central. Et même si ça se voit pas à la radio, mais je suis pas bien grande. Et après, du coup, milieu défensif.
Ok, ils t'ont fait descendre parce que tu marquais pas beaucoup de buts ou... Moi, c'est la question que je pose tout le temps quand les gens me disent j'ai commencé attaquant, qui me dit qu'il a fini défenseur ou défensif, t'as pas marqué beaucoup de buts. C'est à cause de ça?
Tu crois, ouais, peut-être. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'était peut-être une punition en fait.
Non, pas du tout. C'est absolument pas ce que je voulais dire. T'as fait des études de journalisme. Tu les as finis ou c'est...
Ouais.
Ouais. T'étais dans quelle école?
J'étais à... Ça s'appelle Sportcom. C'est une école qui est proposée par l'INSEP et qui est en partenariat avec une école de journalisme, le CFJ.
Ok. Et pourquoi le journalisme? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier?
Mais c'est pas très original, mais mon père était journaliste sportif et depuis... journaliste de sport. Et depuis le début, j'avais envie de faire ça parce que... tu parles football, tu analyses le foot, tu regardes du foot, t'es au contact du foot. Alors peut-être que si j'avais su qu'on pouvait être footballeuse professionnelle, j'aurais dit ça. Mais là, comme je ne pensais pas que c'était une option, c'est ce qui me permettait d'être au plus près du foot, de la compétition, des sportifs, et voilà,
ouais,
d'être dans ce milieu-là, quoi.
Et c'est un métier que tu dois, enfin que tu exerces, c'est un métier que tu exerces déjà, ou c'est vraiment ce que tu veux faire à la fin de ta carrière professionnelle?
Alors j'ai travaillé pour la com de Juvisy du Paris FC du coup pendant 2 ans. Là cette année donc comme je disais, je fais pas de journalisme et du coup maintenant je vois plutôt ça comme une reconversion, comme un métier après ma carrière de foot et voilà. Et je pense que voilà, plus ouais, pour l'instant je me consacre un peu au foot et puis je me dis aussi que plus ma carrière sera belle et peut-être plus l'après sera beau. Voilà.
Donc quand on te dira de passer des points en centrale et que tu voudras pas, ça y est, tu deviendras journaliste.
Je prends mon stylo et
il y a un domaine de prédilection dans lequel tu veux exercer? Est-ce que c'est la presse écrite, le web, la radio, la télé?
J'ai fait spécialisation télé.
Ok. D'accord, donc tu veux, par exemple, si on te propose demain de reprendre mon poste de banquette, c'est pas trop ton truc?
La pression, parce que faut être aussi bon, mais...
Non, c'est gentil.
Non, je rigole. La radio, ça me plaît aussi. Mm-hmm. Donc, fallait choisir une spécialisation, j'ai pris télé, parce que je pense que c'était un peu ce qui est plus complet, puisque à la télé, t'écris aussi, tu peux faire un peu de télé, je pense que tu peux faire un peu de radio... Ouais, j'ai pris ce qui était un peu plus complet. Et puis aussi, on va pas se mentir, un peu plus dans notre temps, quoi.
Ouais, effectivement. Et que dans le foot, où tu te vois parler d'autres sports ou même d'autres sujets?
J'aime bien les autres sports, mais je suis vraiment à l'aise sur le foot. Je maîtrise plus le foot, les termes foot. Donc, ouais, je vais pas commencer à commenter un match de handball, alors que j'ai appris la règle de la chasuble il y a 3 mois.
Ok, bah peut-être bientôt sur nos écrans pour commenter un match des Bleus, et Bleus S ou ES, n'importe. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, parce qu'on arrive à la fin de cette interview? Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc sur le foot féminin, les États-Unis, Charenton, le journalisme Tu peux y aller, c'est ton moment à toi.
Non, bah, je sais pas. Je pense à ce matin, on était en intervention dans les écoles pour parler aux jeunes aux primaires, enfin pour un peu féminiser le football et la pratique du foot. Et ça, on en fait de plus en plus. Donc ces interventions-là, elles sont importantes et voilà, faire juste comprendre aux gens qu'il y a pas mal de filles qui jouent au foot. Voilà, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté. Et j'en suis la première ravie. Et voilà, ça fait plaisir de voir plein de jeunes filles jouer au foot.
Et les élèves réagissent bien quand vous venez dans les classes et tout
Ouais, ils réagissent vachement. Ils sont hyper attentifs. On leur parle pendant 2 heures et ils sont super attentifs. Ils posent des questions. Et il y a toujours... je chope toujours un petit qui... où les filles, elles disent « Ouais, lui, il nous interdit de jouer au foot dans la cour, machin. » Donc, voilà, tu l'engueules un peu, mais le contact, il passe super bien.
Super. Et l'actu, c'est quoi, là, pour toi, du coup, sur la fin de saison? C'est quoi les grosses échéances?
Il nous reste... malheureusement, on a perdu en demi-finale de la Coupe de France. Donc ça, des illusions, ce serait bien faire une petite finale. Et... comme vous savez, les deux premières places, elles sont acquises par Lyon et le PSG. Mais derrière, nous, on veut atteindre la troisième place. Donc, il nous reste 4 matchs, si je ne dis pas de bêtises, à l'heure où on se parle. Et voilà, c'est encore possible. Donc, on joue nos concurrents directs en plus. Donc, déjà, battre nos concurrents directs. Et puis, la troisième place.
Ok, bah c'est tout
ce que vous pouvez me souhaiter.
Exactement, voilà. C'est ce que je te souhaite. Et puis, je te remercie d'être venu dans mon quête parler foot féminin, États-Unis, Charenton, etc., etc. C'était très bien et je te souhaite une très bonne journée, une bonne fin de saison et à bientôt.
Merci à vous pour l'accueil, c'était super.
Merci. Ciao.
Salut.
Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari, au montage et mixage de Laurie Galigani et à la prise de son Charles De Silla. Merci à Inès Jorena d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez aimé cet épisode, écrivez-nous un petit mot sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Pensez aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais ça compte beaucoup pour nous. Et puis je vous dis à très vite, à dans 2 semaines exactement, pour un nouvel épisode. Ciao !